métier solitaire par nature, confiné, dirait-on en 2021, celui de bédéaste renferme bien des secrets et des énigmes. Percer ces énigmes, c'est l'un des défis du documentariste et cinéaste que je reçois aujourd'hui. Avril Tambouret, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va parler de pas mal de choses, puisque comme je le disais, tu as consacré une bonne partie de ta carrière, je crois qu'on peut le dire, au documentaire, et notamment donc plusieurs documentaires à chaque fois qui sont... on peut rattacher à des, peut-être pas des biographies, mais qui se sont intéressés à des figures réelles, notamment le comédien Charles Denner. Et tu t'es intéressé beaucoup à des créateurs de bandes dessinées, à des bédéastes. Alors, petite question un petit peu l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui est venu en premier finalement, la bande dessinée ou le documentaire? Est-ce que tu étais fan de BD à la base et tu t'es lancé dans le documentaire, y compris pour raconter l'histoire de ces créateurs de BD?
Je suis arrivé au documentaire par accident. Moi, je viens de la fiction et j'étais réalisateur de courts-métrages. J'ai travaillé aussi sur des formats plus courts en télé, en sketch. Et je suis arrivé au documentaire par amour pour la bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer un dessinateur. C'était une période où j'avais envie de filmer par moi-même. J'avais 22 ans, donc c'est... On essaye des choses, on tente, on ne trouve pas forcément les producteurs tout de suite. Donc, c'est la débrouille. Et j'ai rencontré un auteur qui s'appelait Laurent Vicomte. Et avec lui, en fait, je me suis retrouvé dans son atelier et j'ai commencé à le filmer. Et c'est réellement en le filmant que m'est venu l'envie, le plaisir du documentariste. Mmh. Ça s'est bâti en cheminant avec lui sur ce film.
D'accord. Donc, tu parlais de Laurent Vicomte, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, très grand... auteur, donc au sens le plus large du terme, c'est-à-dire dessinateur et scénariste de bande dessinée, donc principalement connu pour, puisque c'était un créateur très, très rare et très exigeant, surtout vis-à-vis de lui-même, donc notamment les deux séries phares qui l'ont beaucoup occupé, donc d'abord Balade au bout du monde, c'est bien ça le titre.
Absolument.
Et avec Pierre Macchio, et ensuite aussi et surtout Sasmira, le deuxième tome de Sasmira qui a pris énormément de temps à faire. Je crois que c'était un petit peu pendant une petite quinzaine d'années, c'était l'Arlésienne dans le milieu de la bande dessinée, c'est-à-dire que Vicomte avait sorti le premier tome et le deuxième se faisait patiemment attendre, et c'est d'ailleurs le sujet, c'est au cœur de ton du tout premier documentaire dont tu parlais, qui se nomme donc Laurent Vicomte Entre-temps.
Voilà, le titre c'est Entre-temps, et tu disais patiemment, mais il y avait beaucoup d'impatience.
C'est vrai. Impatiemment,
et notamment autour de Sasmira, parce que Laurent était un auteur absolument dévoré d'exigences, d'un soin, d'une méticulosité et d'un sens de l'harmonie très grand. Il avait la grâce, littéralement, mais cette grâce-là ne se mariait pas forcément avec les délais. Et donc il avait. Il osait tenir tête au diktat du sacro-saint album tous les ans ou tous les deux ans, ce qui se fait dans les grandes maisons d'édition. Et lui a toujours travaillé chez le même éditeur, quasiment, qui était les éditions Glénat, qu'il a rencontré jeune. Enfin, c'était un parcours conjoint. Et peu à peu, il a commencé à espacer le temps entre chaque album, jusqu'à ce qu'il y ait une dizaine d'années parfois, ce qui posait beaucoup de questions, à la fois en termes de renouvellement de public, de l'attente du public,
bien sûr.
Son impatience. De comment aussi on vit en tant qu'artiste quand on prend 10 ans pour faire un album.
Ne serait-ce que matériellement,
quand d'autres en prennent un ou deux.
Mmh, bien sûr. Et donc, comme tu dis, c'est véritablement auprès de Laurent Vicomte et en observant Laurent Vicomte travailler que tu as pris conscience de ça et que finalement ça t'est apparu comme une évidence finalement que l'objet, alors que le documentaire t'intéressait à ce point, et surtout que le créateur de bande dessinée, c'était un sujet à part entière, puisque, comme je le disais, presque tout le monde ou presque a lu des BD, mais tout le monde ou presque ne sait pas comment fonctionne un créateur de bande dessinée au quotidien.
C'est-à-dire que moi, je partais en tant que lecteur et passionné de bande dessinée avec une frustration. C'était de voir que le matériel documentaire audiovisuel auquel je pouvais accéder en allant sur Internet... Mmh. Était déjà très réduit, très pauvre, concernant des auteurs de bande dessinée. Il n'y avait presque rien. Il y avait des choses, hein, il y a des choses, mais pas beaucoup. Et quand il y avait des choses, souvent, c'était des petits modules vidéo, pas très longs. et qui ne montrait pas souvent le dessinateur en train de dessiner. Souvent, il racontait sa vie, mm-hmm. ce qui peut être très intéressant, mais bon, on ne parle pas de création. On ne la vit pas. Et ensuite, quand on le voyait dessiner, il était en train de faire une dédicace améliorée. Il dessinait un peu rapidement la tête du personnage. Et en plus, souvent, dictature de l'image voulant ça, du rythme,
bien sûr.
L'image était accélérée, donc on avait l'impression que c'était magique. Mais tout ça, c'est du faux. C'est du vent, c'est pas la réalité.
C'est bien plus laborieux que ça.
C'est bien plus laborieux. Alors avec Laurent Vicomte, je me suis retrouvé face à une sacrée bestiole qui était le plus laborieux des laborieux, pardon Laurent. Comme il mettait un temps absolument infini, très naturellement, en fait, j'ai vécu un processus d'immersion. Moi, j'étais parti pour le filmer comme on faisait un gentil making-of. Moi, j'avais même pas trop réfléchi à ce que je voulais dire avec le film. J'étais heureux de filmer Vicomte, je l'admirais. Mmh. Il était dans un univers absolument ahurissant parce qu'il vivait dans une maison qui datait de l'époque de son album.
Mmh. À Perros-Guirec,
c'est bon. Voilà. Face à la mer, avec c'est les mouettes.
Incroyable quand on voit ça. Dans
le... daté de 1908, je crois.
C'est un voyage en soi, dans le temps.
C'était déjà un voyage et il était fascinant. Il était baudelairien, Laurent.
Mmh. Un romantique.
Un romantique absolu. Donc voilà, j'étais sous le charme total. Et ce que je n'ai pas vu, c'est qu'en fait, il travaillait peu et puis après, il ne travaillait plus. Et c'est là que s'est forgée peu à peu en moi la réflexion documentaire. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et j'ai cheminé avec lui 1 an et demi, 2 ans,
mm-hmm.
au départ. Et quand je voyais que ça ne donnait rien, on filmait beaucoup, mais il ne dessinait pas.
Mm.
Il faisait tout autre chose.
C'était finalement tout sauf ça.
C'était tout sauf ça. Et là, je me suis aperçu qu'il fallait approfondir le travail, qu'il fallait pénétrer, qu'il fallait travailler dans la relation, parce qu'on était devenus proches. Et c'est cette immersion-là qui peu à peu m'a donné le goût de l'immense liberté qu'il y a à faire des documentaires.
Mmh.
Et là, je parle vraiment en tant que documentariste. J'ai jamais rêvé de faire des documentaires, mais j'adore faire des documentaires. Vraiment, c'est une des choses que je préfère dans la vie, parce que c'est une manière de se connecter au réel, au monde qui nous entoure, de cheminer face au réel et de presque de créer une porosité avec lui. Quand on filme quelqu'un, quand on le rencontre, humainement, ça peut créer des moments absolument bouleversants. Moi, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer.
Bien sûr. Et alors, tu disais, tu parlais de ce cinéma du réel qui est effectivement capital quand on fait du documentaire. Justement, l'acte de création, alors, plusieurs dimensions. D'abord, l'acte de création, il est ce qu'il est. Il peut être insaisissable, il peut être palpable, puisqu'il n'y a pas plus insaisissable que l'idée qu'on a dans la tête, comment elle est née. Après, effectivement, tu parlais du diktat de l'image. Et quand on fait de l'image, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la tête d'un créateur, fut-il un génie, comment est-ce qu'on le retranscrit à l'écran? Et ça, c'est la question petit A. La question petit B qui finalement découle de ça. Comment est-ce que toi, comment est-ce possible, faisable, d'arriver avec sa caméra et de ne pas perturber ou influencer, à tout le moins aussi peu que possible, l'acte de création? Puisque c'est un petit peu métaphysique, mais tu filmes, tu accomplis un acte de création en filmant un acte de création.
Oui, et en plus, évidemment, c'est la question que tu poses, mais à partir du moment où je viens filmer une réalité que je ne connais pas bien d'ailleurs, parce que je la découvre en la filmant, mais il y a un paradoxe, c'est que ma présence la perturbe.
Mmh, tu altères la...
J'altère la qualité de réel et il y a une forme de réaction du réel à ma présence.
Mmh.
Prenons l'exemple, on est dans un paroxysme avec un dessinateur de bande dessinée et j'en ai filmé beaucoup au travail, c'est vraiment paroxystique. Un dessinateur de bande dessinée, c'est quelqu'un qui est chez lui dans son atelier, c'est-à-dire mmh. le refuge dans le refuge.
Bien sûr, ouais, c'est ça.
Qui est seul et qui travaille dans le silence ou dans la musique, mais dans un espace d'une immense intimité.
Mmh.
Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être vu. C'est quelque chose qui
est... Il est seul avec ses pensées.
Il est seul avec ses pensées et surtout, il est seul à être juge de son travail. Parce mmh. que l'album n'est pas encore sorti et c'est la cuisine interne.
Bien sûr.
Interne, intérieure même. Alors, très rapidement, moi, j'ai eu conscience d'ailleurs avec Laurent que en le voyant aussi rétif à dessiner, souffrir face au dessin, qu'il y avait là une question absolument passionnante qui est comment on filme un dessinateur en train de dessiner.
Sans que ça ressemble, comme tu disais, à une séance de dédicace.
Voilà.
Et surtout qu'on voit...
fait pour la caméra.
Bien sûr.
Je veux pas quelque chose fait pour moi.
Et que ça ressemble à de la magie, comme quoi on vous a fait un montage de 2 minutes avec une musique enjouée.
La première clé, c'est le temps. Cette chose qui est absolument...
Mais c'est vrai que tu as commencé avec Laurent Vicomte, donc le temps,
voilà,
tu as été à bonne école.
Le tournage avec Vicomte a duré 8 ans.
Voilà,
c'est le temps de l'apprivoiser. Il faut savoir s'oublier. se faire oublier. Il faut s'effacer, donc c'est presque quelque chose où on disparaît, en fait. Il y a une forme de connexion qui doit s'établir avec ce qui se passe sous vos yeux, avec la sensibilité de la personne que vous filmez. Et cette connexion-là amène à déjouer des réflexes qu'on aurait de dire « Ah oui, mais je voulais filmer ça comme ça, mais moi je veux filmer ça, vous allez faire ça. » Tout ça, il faut l'oublier complètement. Et réellement, on vit réellement en direct ce qui se passe et on s'ajuste en permanence, mais sans intervenir.
Donc, est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, tu renonces à cette tentation qui est souvent plutôt saine du cinéaste de dire « Ah tiens, là, j'aimerais, y compris quand on est documentariste, tiens, là, j'aimerais bien faire un beau plan avec tout ce que ça recoupe. »
Il y a des fenêtres de tir très étroites. Par exemple, j'ai filmé le film que j'ai fait après Vicomte, après Entretemps, s'appelait L'Histoire de la page 52.
Oui, on y viendra après sur Pierre Christian et Jean-Claude Mézières, Valérian et Laureline.
J'ai filmé Mézières. Alors là, j'étais en carence de dessin parce que Vicomte n'ayant que très peu décidé.
Bien sûr, ouais.
J'avais pas eu ce que je cherchais.
T'étais en besoin.
J'étais en manque, j'avais eu plein d'autres choses. Et avec Mézières, j'ai pu me rattraper parce que je l'ai filmé en train de dessiner une planche de A à Z.
D'où la page 52 d'un des tomes de Valérian et Laureline.
C'était en 2013 et... Mézières était un petit peu séduit par l'idée, parce que ça n'avait pas été fait jusqu'ici. Ça lui plaisait de tenter l'expérience. Mais bien que ce soit un immense auteur, qu'on a vu d'autres, il était un petit peu inquiet de comment on allait faire ça. Et moi, je lui ai proposé ce que je propose très souvent pour me familiariser avec un sujet. On a fait une séance de test. C'est-à-dire que je suis arrivé avec ma caméra, j'ai dit, on passe l'après-midi ensemble, vous dessinez, je ne suis pas là, j'attends rien, je filme, et on voit ce qui sort. Et c'est une manière de se flairer. C'est une manière
de s'apprivoiser, comme tu disais.
Qu'est-ce que c'est que ce type avec sa caméra? Comment il va venir m'embêter?
Qui est tout sauf naturel, bien sûr. Ouais.
Et comment moi, de tester dans quelle mesure je vais réussir à me faire oublier? Comment je vais sentir ce qui va se passer? Et si je ne perturbe pas trop? Parce que si je vois que ça ne prend pas, on ne fait pas le film.
Bien
pas
sûr. Grave.
C'est la condition sine qua non. Donc le temps, c'est la clé. C'est-à-dire plus on s'immerge, plus on fait partie du décor, on devient quasiment comme devenir, on fait partie des meubles.
T'es la petite mouche sur le mur, finalement.
Je suis la petite mouche sur le mur, je suis la souris dans un coin, je suis le taille-crayon. voilà, il y a une forme de fusion. Et dans ce mécanisme-là, de s'oublier comme ça, il y a vraiment un délice du documentariste.
Et alors, tu disais, la clé, c'est donc de se faire oublier, de presque s'effacer ou de disparaître. Toi, tu réapparais, justement, pour rester dans cette idée-là, au moment du montage?
Oui. En fait, j'ai une manière de filmer, je fais beaucoup de gras. C'est-à-dire que je tourne énormément.
Tu as beaucoup de rush?
J'ai énormément de rush.
Donc, par exemple, pour tes documentaires, en moyenne, ils font autour d'une heure. Tu te retrouves avec combien d'heures?
C'est difficile de comptabiliser dans ce sens-là, parce que tout dépend du sujet et tout dépend du processus. Mais par exemple, le film sur Vicomte, qui est un exemple extrême, puisqu'il y a 8 ans, on n'a pas filmé tous les 8 ans. Mais le film fait.
C'est des va-et-vient, comme
10,
tu dis.
Quelque chose comme ça, ouais. Et on doit avoir 200 heures de rush.
Oui, là, c'est particulièrement extrême.
Mais sinon, on a une vingtaine, une trentaine d'heures, et on en tire une heure.
D'accord.
Mais à partir de là, le montage, c'est une reconquête. C'est vraiment. C'est à la fois le moment où on rassemble tout. Et il y a une espèce de confrontation qui se fait entre ce qui a été vécu, ce que j'ai vécu en tant que documentariste.
Le réel dont tu parlais.
Ce que j'ai cru voir, ou ce que j'ai vu à travers
mon appareil photo,
mon écran, mon retour caméra, et ce que je vois en définitive. Parce qu'évidemment, il y a un truc très bizarre. Comme on s'efface, on ne voit pas vraiment ce qu'on filme. On en a une perception, on n'est pas bête. On comprend quelque chose, mais on n'en comprend qu'une version. Et véritablement, le recul et l'œil qui décide, c'est après qu'il se forge. C'est devant la table de montage. Donc, j'ai pour habitude de tourner énormément parce que très souvent, je me suis aperçu qu'au moment où j'avais envie de couper la caméra, paradoxalement, quand je me retrouvais en montage, si je ne l'avais pas coupé par hasard, j'étais très content de ne pas l'avoir coupé en me disant « Mais c'est très bien ce moment-là. »
Heureusement que je l'ai,
tiens,
en stock.
Sens, heureusement que je l'ai. Oui. Donc, je me suis dit « En fait, on n'est pas conscient véritablement de l'histoire souterraine qui parcourt le réel qu'on est en train de filmer. » On ne la connaît pas.
Ouais.
On n'est pas devin. Beaucoup de gens disent, alors tu vas écrire le film, tu le filmes, qu'est-ce que tu veux faire comme film? J'ai une vague idée, mais ça peut changer.
Bien sûr.
Ça va bouger, ça va s'altérer, ça va se modifier.
Ça s'effrite. Ça...
On ne dirige pas le réel,
bien sûr.
On l'accueille et on le reformule. Et c'est ça, c'est là qu'est le vertige. Et là, il y a de la fiction, pour le coup. Parce qu'il y a de la traduction et de la trahison, si elle va dans le bon sens.
Bien sûr, oui.
servir ce qu'on a senti du dessinateur, de ce qu'il défend, de ses valeurs, de ses causes. Voilà, c'est au service de ça qu'il faut reformuler les choses.
D'accord.
J'espère que ce n'est pas trop abstrait.
C'est abstrait, mais c'est passionnant, c'est métaphysique. Alors, tu disais... ce que tu disais est très intéressant. D'ailleurs, moi, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que ça rejoint ce que tu viens de dire à l'instant. On voit dans tes films que le fond rejoint la forme, c'est-à-dire que tu parlais du documentaire que tu as fait sur Vicomte, qui a pris beaucoup de temps à tourner. C'est vraiment l'histoire de. Le titre, c'est Entre-temps, donc ça donne bien une idée. C'est une histoire de va-et-vient, parfois de déception, d'espoir retrouvé. Le documentaire sur Vicomte, c'est un des plus longs que tu aies fait. Et à l'inverse, le documentaire que tu as consacré à François Bouc, qui s'appelle à juste titre La Journée, puisque lui, à l'inverse, c'est. Le Usain Bolt peut-être des créateurs de BD, c'est-à-dire qu'il commence à 8h du matin et il dessine une planche en une journée, c'était le documentaire fait peut-être une grosse demi-heure. Et c'est ça finalement, ça fait une demi-heure et tu as dit tout ce que tu avais à dire, puisque tu le suis au quotidien.
C'est le film qui décide en fait. On sentait bien qu'on allait pas faire 2 heures avec La Journée de François Bouc, parce qu'il y a un nombre d'événements qui s'est passé, mais il n'y a pas de durée précise,
Et il a quand même le temps de faire son entraînement de Bushido, il me semble que c'est ça.
Il a le temps dedans de vivre sa journée, ni trop peu ni pas assez.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Maintenant que tu as finalement beaucoup accompagné, filmé, scruté les créateurs de bandes dessinées, est-ce qu'il y a quelque chose qui lit tous ces gens-là, c'est-à-dire entre un vicomte et un Bouc, par exemple, qui ont des conceptions on ne peut plus différentes et divergentes de leur art. Est-ce que dans leur acte de création, il y a quelque chose qui les lit, qui les rassemble ?
Moi, j'ai senti deux choses qui se conjuguent. La première chose que j'ai sentie, c'est l'enfance. C'est le rapport à l'enfance, parce que... c'est pas le cas de tous les dessinateurs, mais c'est le cas de beaucoup de dessinateurs de bande dessinée de cette génération-là, mmh. C'est-à-dire des gens nés de Mézières, qui est né dans les années 30.
38, ou ouais, je me semble que
c'est. Jusqu'à
ouais.
Effectivement les années 50, 60.
François Bouc, milieu des. Ouais.
55 pour François, mmh. 57 pour Vicomte. Ce sont des gens qui font de la bande dessinée parce qu'ils en ont lu en étant enfants.
Mmh.
Et c'est le terreau. Véritablement, c'est le point de départ et c'est une espèce de matrice. De limon comme ça souterrain dans lequel ils viennent puiser régulièrement. Donc il y a un rapport à l'enfance. Et il y a toujours eu dans tous les films que j'ai fait, après on l'a mis ou on ne l'a pas mis,
tu l'as plus ou moins.
Ça a été exploité, mais il y a toujours spécifié. Eu un moment donné où les dessinateurs que je filmais se retournaient sur leur lecture d'enfance et tout d'un coup avaient le besoin de communiquer leur amour pour. Tel grand maître, pour Mézières, c'était Jigé avec Jerry Spring,
qui bien sûr.
L'apôtre du western.
Ce passage est génial dans le documentaire.
François Bouc, c'était Gaston Lagaffe et Franquin. Mm-hmm. Gaston Lagaffe, dont il était persuadé, à cause du talent de Franquin, pour donner une vie à Gaston, une vivacité, un dynamisme irrésistible. Il était convaincu, François, que Gaston Lagaffe existait quelque part.
Qu'il avait capturé le réel, lui aussi.
Quelque part, où Gaston Lagaffe était dans un bureau et faisait toutes ses bévues. Évidemment, c'était pas possible autrement. Les Schtroumpfs, pareil.
Ouais.
Alors voilà, et Vicomte, j'en parle même pas, Laurent baignait là-dedans, et la magie de l'enfance, il voyait son atelier comme un petit champignon de Schtroumpf.
Mmh.
Donc il y a ce rapport à l'enfance, ça c'est la première chose, l'art de l'enfance. La deuxième chose, c'est la fraternité. Il y a quelque chose qui relie un peu tous ces auteurs, c'est une grande simplicité dans les rapports. C'est un milieu, la bande dessinée, extrêmement amicale.
D'accord.
Et aussi où il y a quelque chose, une forme, j'allais dire ingénuité, mais je ne voudrais pas que ça soit pris dans le mauvais sens du terme. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a une tranquillité. Il y a quelque chose où il y a une forme de candeur.
D'accord.
Où tout le monde est à peu près sur le même pied. Il n'y a pas de coterie.
Ils se connaissent tous entre eux.
Il n'y a pas d'effet de mode. De chapelle, de mmh. snobisme,
de guéguerre ou de.
C'est un milieu qui est protégé de ça. Mmh. Qui est protégé de ça. Et alors, je ne comprends toujours pas pourquoi.
Oui, parce que c'est vrai
c'est
que.
C'est mystérieux.
Oui, parce que c'est un milieu qui, comme tous les milieux, on va dire littéraires, ou toutes les autres industries culturelles, c'est quand même régi par ses lois commerciales, par ses dictates, comme
absolument.
Tu disais. C'est-à-dire
c'est
que.
Un, Bah, économiquement, ça génère énormément d'argent.
Bien sûr.
Les auteurs de BD sont, pour la plus grande partie, dans des situations économiques absolument d'une précarité effrayante.
Tout à fait, oui.
C'est un sujet catastrophique, hein, et puis qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à bouger.
Mm-hmm.
La manière dont sont gérées patrimonialement les œuvres, il n'y a pas de musée de la BD à Paris.
Non, c'est vrai.
Il y a une forme de non-reconnaissance. Alors, c'est peut-être là. Une forme de reconnaissance, évidemment. Mais
entre eux.
Qui est là. Mais entre eux, où finalement, bon, on parle de nous une fois par an dans les grands médias.
À Angoulême. Quand c'est Angoulême, voilà.
Le reste du temps, on nous fout un peu la paix. C'est bien dommage. Et tout le monde est bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, eh ben, on est tranquille.
Mmh.
Voilà. Il y a un côté un peu... voilà, une forme
mais
de...
c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parlais de l'aspect patrimonial du truc. C'est vrai qu'on prend, alors, comme effectivement, comme toutes les industries culturelles, la BD, elle n'est pas à l'abri de ces blockbusters. Je pense notamment, tu parlais des Schtroumpfs, mais Astérix, effectivement, c'est un bon cas. Là, il y a un dernier Astérix qui est sorti. Je n'ai pas regardé les chiffres, mais j'imagine qu'il a très bien marqué. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que... il y a peut-être énormément de gens, ou à peu près tout le monde sait que le Astérix sort, mais si tu demandes qui dessine ou qui scénarise, tu vois, les noms de Ferry et Conrad, Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, n'ont pas supplanté Goscinny et Uderzo, aussi parce que c'est moins écrit, moins gros sur la couverture.
Goscinny et Uderzo, ce que tu racontes m'évoque une photo que j'ai vue récemment où j'apprenais que Uderzo, par loyauté, par fidélité, très régulièrement, tous les ans, aller à la fête du livre de FISM, je ne sais pas comment ça se dit, c'est un petit village où il est né, dans la Marne.
D'accord.
FISMES.
D'accord.
Voilà, les auditeurs rectifieront, prononceront bien,
c'est ça.
À moi, en regardant sur Internet. Et il était né là, et il n'avait pas d'autre attache que ça, mais il y avait une fête du livre, mais c'est un tout petit village. Hein.
Mmh.
Et il allait chaque année, dans les années 90 et 2000, à la fête du livre.
Alors que son succès a été plus approuvé.
Et on voit des photos où c'est vraiment, c'est dans un champ ou sur le terrain de foot,
mmh.
Il y a des barnums avec des grilles saucisses. C'est la fête.
C'est
la fête du livre.
C'est là, oui.
Et il y a eu des
fêtes du village.
Qui a vendu 200 millions d'albums.
Qui a fait le tour, traduit dans 40 langues.
Pour aller tout signer, les trucs pour les gamins, les calicots. Et voilà. Et je trouve ça absolument exceptionnel. Et bouleversant. Je trouve que c'est magique.
Quoi. Oui, c'est ce que tu dis. C'est cette espèce de loyauté, de générosité que le succès a pas miné, a pas entamé, quoi.
Ouais. Pas d'autres milieux où on n'imagine pas un comédien faire ça.
Je pense pas, tu vois. Je pense, enfin, je veux pas citer de nom pour désinguer qui ce soit, mais je veux dire quelqu'un qui fait des films à succès, qui gagne des Césars. Tu l'imagines mal prendre le micro dans la fête communale de son bourg. Ou se prêter au jeu des autographes. Donc, pour reprendre un petit peu le fil chronologique de ta carrière, tu parlais de Christin Mézières, à qui tu as consacré en tout, alors je ne vais pas dire de bêtises, si c'est deux ou trois documentaires, puisqu'il y a, tu parlais de l'histoire de la page 52, et donc, comme tu le disais, tu filmes l'acte de... tu suis Mézières qui dessine cette fameuse page 52 de bout en bout, et il y a aussi, il me semble, les couleurs de la page 52.
Oui, disons qu'il y a deux films et demi. Hein,
voilà.
Il y a la page 52, l'histoire. Avec
moi, j'ai vu que celui-là, c'est pour ça que...
Voilà. Et quand j'ai fini ce film, j'avais filmé toute la page, c'est-à-dire la mise en couleur aussi. Et pour des questions de narration, mais vraiment strictement de narration, la mise en couleur étant effectuée par quelqu'un d'autre que Mézières, qui est Evelyne Tranlé.
Sa sœur.
Sa sœur, une très très grande coloriste. Eh bien... ça faisait intervenir un nouveau personnage à la fin du film.
Mmh.
Or ça, d'un point de vue narratif, c'est extrêmement compliqué à gérer.
Bien sûr.
Là, c'était impossible. Le sujet, c'était Mézières seul dans son atelier. Une fois qu'il a fini, qu'il dit merci, au revoir, on commence...
Si c'est fini, c'est fini.
Voilà, c'est fini, c'est fini. Alors on commence un nouveau film. Donc on n'a pas mis Evelyne dans le film, à mon grand regret, mais je savais que les images étaient là, et je me suis dit, après tout, si on commence un nouveau film, ben, je vais faire un nouveau film. Donc j'ai fait une sorte d'addendum.
Mmh.
Un court-métrage qui fait 18 minutes, qui s'appelle « Les couleurs de la page 52 ». Voilà. Et ensuite, j'étais tellement bien avec Christin Mézières et Tranlé, à cause en partie de ce qu'on s'est dit, et à cause aussi de ce qu'ils sont, c'est-à-dire cette simplicité, cette...
Ça rejoint ce que tu disais avant.
C'est des créateurs magnifiques, et c'est des êtres humains, vraiment, on est tombé en affection très grande, que j'ai continué de les voir. Comme la majeure partie des gens que j'ai filmés, on s'entend plutôt bien, sinon on ne le fait pas.
Hein. Bien sûr.
Et eux, on est vraiment devenus amis. Donc j'ai continué de les voir, ils me racontaient leurs histoires.
Et il y avait plein de choses à raconter.
Il y avait tellement de choses à raconter que je me suis dit, faisons un film plus vaste. Et j'ai fait un documentaire sur la série Valérian et notamment son apport à la science-fiction.
Sur Valérian, histoire d'une création, c'est bien ça. Où là, tu. En fait, alors, il me semble qu'en termes de timing, puisque je l'ai vu il y a quelques jours pour préparer l'émission, où ça correspond au moment où Luc Besson était en train d'adapter la BD et où il tourne. On les voit, eux, arriver sur le tournage, Besson intervient et.
L'aventure du film de Luc Besson par rapport à Valérian a été un déclencheur énorme. Ça rejoint ce qu'on se disait sur la bande dessinée, c'est que. Je veux pas pleurer misère, mais c'est très difficile de trouver des financements pour faire des films sur des auteurs de bande dessinée parce que, grosso modo, la télévision n'aime pas trop la bande dessinée. Elle l'aime bien.
Elle la tolère.
Mais pas trop. Et donc, y a quelque chose qui coince un peu. Ça ne vient pas. Y a beaucoup de lecteurs de bande dessinée, mais ça reste pour les décideurs. Souvent, je m'en suis aperçu, on me l'a dit. Un public de niche.
D'accord.
La bande dessinée, c'est une niche.
En dépit du grand succès de librairie que...
Absolument. C'est un paradoxe. Je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi, et surtout pourquoi cette situation n'évolue pas. Mais elle n'évolue pas. Même elle régresse un peu. Toujours est-il que je ne pensais pas faire un film sur Valérian. Je n'y rêvais pas jusqu'à ce qu'il y ait la fenêtre de tir offerte par le film de Besson.
Bien sûr.
D'un coup, tout le monde parlait de Valérian.
Même ceux qui... Et surtout ceux qui l'avaient jamais lu.
Et pendant quelques instants... Eh bien, Valérian n'a pas été une œuvre pour public de niche aux yeux des interlocuteurs de chaîne. Et donc, on a pu produire ce film à ce moment-là.
C'est d'ailleurs, ma question suivante découle directement de ça. C'est une... Il y a tout un public qui a été amené au BD de Christine Mézières par le succès relatif du film. Pour des connaisseurs ou pour un public finalement pas si vaste que ça, c'est une saga de science-fiction qui est considérée à juste titre comme séminale et capitale dans son apport au genre. Pour autant, est-ce que elle est vraiment considérée à juste titre? On estime vraiment son apport au genre dans la science-fiction en bande dessinée et de façon plus vaste. Je dis ça parce que dans ton documentaire, tu fais d'ailleurs réagir un petit peu Christine Mézières là-dessus, tu fais beaucoup de parallèles et d'analogies avec la saga Star Wars, qui est arrivée une petite dizaine d'années après.
Alors, bon, il est certain qu'aujourd'hui, Valérian est reconnu comme une œuvre, une matrice de la bande dessinée en science-fiction. Énormément d'auteurs venant après Valérian ont témoigné de leur gratitude, ont témoigné de combien cette œuvre a été pour eux un emblème. Enfin, voilà, Christine et Mézières reçoivent encore aujourd'hui plein d'auteurs confirmés qui leur disent « mais j'ai adoré tel album ». Donc la reconnaissance du milieu de la bande dessinée,
de leur père,
public et de leur père en tant que jalon essentiel, là-dessus, ça me paraît quelque chose d'acquis. Pour le cinéma, bah oui, effectivement... c'est pas à moi d'en juger, moi je ne suis que le traducteur, donc je relais ce que les auteurs en disent. Il y a eu des emprunts qui sont, appelons ça des emprunts, c'est pas plus, faut pas déconner.
Pas parler de plagiat pour autant. Mais
Star Wars c'est Star Wars et ça appartient à George Lucas bien sûr. Mais moi ce qui m'a intéressé c'est de sentir que effectivement Star Wars c'est un immense tissu d'influence, d'inspiration, d'imprégnation. Et parmi ces inspirations, eh bien, il y a des choses tout d'un coup qui graphiquement semble provenir de manière assez flagrante de plusieurs cases de Valérian. C'est vraiment graphique, c'est-à-dire c'est des compositions.
Mais c'est parfois assez, j'allais dire subtil, peut-être pas si subtil que ça, mais notamment dans le... Bizarrement, c'est ça que j'ai retenu, mais le très très célèbre bikini de la princesse Leia, même là, on en retrouve la généalogie.
Dans une case, c'est l'Empire des Mille Planètes, je crois, ou Bienvenue sur Aflolol. Donc on est en 72 quand Mézières dessine ça. Et alors la force de Mézières, c'est qu'il dessine l'Orline en bikini, trois cases, dont une où elle a vraiment la position de la photo de la princesse Leia avec la chaîne autour du cou, ce truc un peu lascif comme ça. Et il la dessine pas plus. C'est-à-dire qu'il invente un truc, une image très forte. Et puis, hop, il passe à autre chose. C'est l'immense générosité. Il crée un monde. Mais
t'as presque l'image rémanente quand même qui demeure.
Il va tirer sur la corde en disant, maintenant que j'ai trouvé une super idée.
On va la mettre en bikini toutes les trois pages.
Non, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de trouver derrière comment il va faire pour que la page suivante ait une autre image intéressante. C'est comme ces bestioles, les extraterrestres de Mézières, dont par exemple les Shingouz, on en retrouve un petit peu dans la version de Star Wars des années 2000. Les chingouzes, quand ils apparaissent, ils ont trois cases, ils ne devaient pas réapparaître. Et quand on les voit, on se dit, mais c'est incroyable, ces bestioles, elles marchent, elles bougent, elles parlent. On les voit vivre, quoi. Il a déjà, elles ne sont pas encore toutes faites. Elles vont un peu bouger avec le temps dans sous son trait, mais ce n'est pas prévu pour durer.
Elles sont là de façon embryonnaire, quoi.
C'est une des clés, en fait, de l'influence de Valérian. C'est qu'il y a comme ça une espèce de puissance, mais qui n'est pas, qui est pas une déferlante. Ce n'est pas un dessinateur frimeur.
C'est subtil.
Ce n'est pas un univers qui se hausse du col en disant « je vous en mets plein la vue et là j'ai inventé un truc de fou et on y va ». Non, c'est posé, c'est là, mais on nous en montre qu'un tout petit bout.
Mmh.
Et alors l'imagination du lecteur
fait le reste, en fait. Oui,
et ça, c'est un truc
c'est la force.
Absolument incroyable.
Et c'est aussi ça, la force du médium de la bande dessinée, qui repose souvent sur la suggestion, là où l'image et notamment le cinéma montrent beaucoup plus.
Alors ça pose une question moi à laquelle je me suis beaucoup heurté, c'est que en filmant notamment du dessin, c'est pas facile à filmer le dessin. Le dessin de bande dessinée, son rythme, il y a quelque chose qui résiste un peu. L'image animée n'aime pas ça.
Mmh.
Et d'ailleurs souvent les dirigeants de chaîne disent oui mais alors qu'est-ce que vous pour animer les dessins, l'image, vous allez faire quoi ? Peut-être là ah bah tiens, il y a une case où il y a marqué bang, on pourrait animer le bang. J'ai dit, mais vous voulez un dessin animé ou vous voulez un dessin animé ? On fait pas un truc.
C'est pas un cartoon.
C'est pas un cartoon. Et ça témoignait en fait d'une espèce de malaise devant l'image fixe.
Mm-hmm.
Cette peur du vide. Moi j'adore les images fixes et j'aime surtout les blancs entre les images fixes.
L'intercase.
L'art de la bande dessinée, cette ellipse, ce temps blanc.
Bien sûr.
Où nous on construit à l'intérieur. Alors que quand on fait des films, évidemment, il y a pas de temps blanc.
Il y a pas de temps mort.
Il y a quelques ellipses, mais dans une scène, il y a une vraie continuité de mouvement. Mm-hmm. Et je pense que les gars-là ont un espèce de fondement du fait que ce sont des arts jumeaux, mais qui n'ont absolument rien à voir, la bande dessinée et le cinéma. Et ça se sent souvent quand on voit des adaptations. Une part de la magie de la bande dessinée vient de là. Une part du charme, de son pouvoir de suggestion vient de là, de ce blanc entre les cases, de l'art de l'ellipse, l'art de... C'est Fellini qui disait ça, c'est comme des papillons.
Mm-hmm.
La bande dessinée, c'est un papillon qui est punaisé sur un mur. Il y a cette espèce de fascination spectrale.
Uh-huh.
Et je trouve ça très beau, parce qu'effectivement, le dessinateur choisit une seconde dans le mouvement du personnage.
Il fait pause.
Il dit, ça sera cette seconde-là. La main pas plus haute, la main pas plus basse, c'est celle-là. Comment on choisit cette seconde pour témoigner au mieux du mouvement qu'on veut représenter ?
Mmh.
Ça, personne n'en parle. Et même les dessinateurs, vous leur demandez... Oh,
c'est à conscientiser, c'est très difficile, puisque la plupart des créateurs de bande dessinée le font instinctivement, intuitivement.
Ça.
Bien
L'un
sûr.
L'un des plus forts là-dessus, c'est Maurice. C'est lui qui a inventé comment un cow-boy dégaine en bande dessinée.
Exactement.
Pistolet. On n'avait jamais vu ça avant, parce qu'il n'y avait pas de bande de cow-boy. Et tout le monde fait pareil.
Et tous Maurice qui était...
dégaine au même moment. Maintenant.
Exactement.
Maurice
qui était un immense cinéphile, d'ailleurs.
Qui était un immense cinéphile.
Nourri d'western et de...
Il voulait faire du cinéma en BD. Et il voulait être auteur de dessins animés. Il voulait être Walt Disney, si vous voulez.
Ouais.
C'était son rêve de faire de l'animation. Donc, il y a cette frustration initiale qui a créé... Qui va nourrir derrière. Mais derrière, moi, je me rends compte effectivement que il y a quelque chose qui effraie un peu l'image animée dans ces images un peu posées comme ça, immobiles.
Mmh.
Ça dialogue. C'est des arts jumeaux, comme je le disais, mais qui ne sont pas toujours réconciliables.
Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, tu parles de public de niche, alors que paradoxalement, on est dans une époque où les blockbusters au cinéma qui rapportent le plus d'argent, ce sont des adaptations avec des comics, DC Comics ou Marvel, avec Superman, avec Batman. Donc c'est quand même... Et je dis ça, et c'est plus en plus uniquement DC, enfin c'est plus uniquement Batman ou Superman, c'est des héros qui étaient beaucoup moins connus, qui étaient connus seulement de gens accros à la bande dessinée, et maintenant c'est tout des bestiaires entiers de ces écuries-là qu'on voit. Donc finalement, il y a quand même eu le cinéma est quand même très fan de bande dessinée, mais il subsiste quand même, comme tu dis, cette espèce de malaise.
Je pense que là, on touche à quelque chose d'un peu plus prosaïque, qui est que ça rassure beaucoup les producteurs sur des énormes budgets.
Mmh.
D'avoir déjà un matériau créatif
bien sûr
abouti. Ça rassure tous les producteurs de partir d'une BD. Il y a des chiffres de vente, ça a été un succès formidable.
Bien sûr.
Il y a un univers visuel, il y a un récit, il y a une narration, on peut le montrer.
Il y a un public, presque pas une audience captive, mais un public déjà réceptif.
Il y a un public, ça donne l'impression qu'on navigue en terrain un peu plus sécurisé. Ce qui, moi, je pense, est une très grande erreur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres de bande dessinée qui valent le coup d'être adaptées au cinéma. Il y en a, il y en a.
Il y en a, mais...
Évidemment, il y en a. Mais c'est pas forcément fait pour, quoi. C'est-à-dire que, ou alors, il faut vraiment s'en détacher et dire c'est autre chose.
Ouais.
C'est un film, on s'est inspiré parce que ça nous aidait, mais c'est pas la BD, quoi, c'est autre chose. Voilà, tout simplement.
Ouais.
Le quatrième mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
Alors, tu disais, comment dire, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais avant, un autre de tes documentaires, tu l'as consacré à Yves Chaland, qui est un immense et génial créateur de bande dessinée. Alors là, j'imagine pareil que tu n'as pas forcément choisi le sujet d'étude le plus facile, puisque c'est là, on peut... Il est mort il y a plusieurs décennies de ça, donc on peut, je pense, malgré tout parler d'un public de niche, même si, comme on le verra plus tard, son influence reste très vivace. Toi, tu en parles, il est mort, Yves Chaland, il avait 33 ans, c'est ça ?
Oui, Chaland, bon, c'est vraiment effectivement un public de niche, mais c'est un auteur culte. Chaland est mort en 1990, il avait 33 ans, donc extrêmement jeune, et il a eu le temps, dans à peine 10 ans de carrière, de devenir l'équivalent d'un maître. C'est-à-dire quelqu'un qui a un parcours artistique d'une grande cohérence, une production tellement dense, tellement intense, qu'on peut suivre une évolution.
Tout à fait. Depuis
23 ans à 33 ans, c'est pas donné à tout le monde.
Ça, c'est sûr.
Une qualité graphique immense, vraiment.
Incroyable.
Une qualité narrative où c'est de la dynamite, vraiment. Et en plus, de devenir pour les gens de la génération d'après, mais aussi les gens de sa génération, une référence.
Bien sûr.
Quelqu'un qui inspire, puisque qui est stimulant.
On en parlait même, et c'est ce qu'on voit très bien dans le documentaire, qui est montré d'ailleurs avec beaucoup d'émotion, même des gens de sa génération qui étaient non seulement des collègues, mais des amis. Je pense à des gens comme Flock, dont on parlait un petit peu avant, ou alors des gens comme Serge Clair, Franck Margerin, ou alors François Avril. C'est des gens qui... même si c'était des potes, le révérait totalement. C'était lui, finalement, la figure de proue de ce qu'on a appelé la ligne claire moderne ou post-moderne. C'était pas encore tout à fait post-moderne. Ton documentaire, tu l'as intitulé L'énigme Chaland. Donc, la veuve d'Yves Chaland apparaît dans le documentaire. Tu as interrogé beaucoup de gens qui l'avaient côtoyé à l'époque. Est-ce que, justement, tu as réussi à percer le secret ou c'est toujours l'énigme Chaland ?
Le point de départ de l'énigme Chaland, c'était vraiment une espèce d'obsession persistante pour Chaland.
Qui te poursuivait.
Qui me poursuivait.
Donc finalement, toi aussi, tu as ce terreau de l'enfance et ce limon dont tu parlais.
Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose. Quand je passais devant une librairie et que je voyais un dessin à lui, il y avait un sentiment de familiarité très puissant, une forme d'aimantation. Et donc ça questionne, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi cette image ?
À quoi c'est lié ?
D'où ça vient ? Qui a fait ça ? Qui est derrière ce trait ? On découvre que ce type est mort. Il meurt en 90. Ah tiens, il meurt en 90, il a fait quoi ? Ah oui, il avait publié dans Astrapi.
Ouais.
Je lisais des Astrapi, moi. Alors bon, ça vient de là. Et puis tout doucement, je découvre son œuvre à rebours, véritablement, puisque c'est vraiment une œuvre qui est ancrée dans les années 80. Et je la découvre dans les années 2000, quasiment 20 ans après. Et l'impact est immense. Et j'ai l'impression d'être face à un dessinateur qui fait la jonction, c'est-à-dire il appartient à son époque, mais il appartient à l'époque d'avant aussi. Quand on voit ses dessins, on dirait du Hergé, on dirait des aventures de Tintin, ces personnages d'une petite houppette.
Ouais.
En même temps, il y a une forme d'outrance dans le trait qui crée un sentiment de décalage. Il y a une virtuosité qui est absolument ébouriffante.
Graphiquement, c'est...
On se demande comment
on reste, on reste pantois. C'est
une magie à l'œuvre, véritablement. Donc on se dit, tiens, c'est l'héritier des Franquins, c'est Franquin version 2.0. En même temps, le mec n'est plus là, il n'y a rien sur lui, ses albums ne sont pas réédités ou très peu.
Ça a été très peu réédité, il n'y a pas d'édition augmentée, critique, non, avec des mises en compte.
Alors quelques-unes, ça commence là depuis une dizaine
c'est toujours c'est les humanoïdes associés.
Oui, c'est toujours les humanoïdes associés. Il y a Champaka qui fait un très beau boulot bibliographique autour de son œuvre aussi, et Dupuis avec Spirou. Mais voilà, on sent ce mélange de charme entre une puissance, une œuvre avortée et quelqu'un qui est une figure comme ça dont on devine une aura souterraine.
Mmh.
Et alors moi, un peu naïvement, j'avais juste envie de me rapprocher de lui. J'avais envie de comprendre pourquoi il y avait ce truc lancinant. Donc tout doucement, en fait, comme un aimant, on va voir, tout d'un coup, je croise un auteur, on parle de Chaland, on dit « Ah oui, moi, ceci, je me souviens de ça. » Pouf. Et alors, c'est comme c'est un métier de glaneur, en fait.
Mmh.
Vous rassemblez comme ça des bribes d'histoire, ça forge une image dans votre tête, et puis à un moment donné, va savoir pourquoi vous décidez qu'il y a assez pour faire un film. Ça vaut le coup que l'entreprise se concrétise. Et donc, le film prend la forme véritablement. Je voulais pas faire un film biographique, parce que moi, je suis pas biographe. J'ai pas ce talent-là, je sais pas faire ça. Et puis je pense que ça aurait pas plu à Chaland parce que c'est quelqu'un qui brouillait les cartes.
Mmh. Il était plus distancié que ça, peut-être, voilà, que ce soit une biographie, voire une hagiographie parfois.
Qui travaillait avec son image, on sentait bien qu'il y avait des masques, on sentait bien qu'il y avait
une distanciation.
Une mise en scène, une distanciation. Donc j'ai commencé à m'aventurer là et je me suis aperçu que j'étais loin d'être le seul. C'est ça qui était.
Mmh.
C'est là qu'a eu lieu le phénomène documentaire. C'est-à-dire, pourquoi faire ce film à tout d'un coup ? Mon intimité. N'intéresse que moi, hein, raisonner avec des types qui eux aussi vivaient un petit peu en pensant à Chaland, même parfois dans le culte de Chaland, qui repensaient à ses conseils, qui restaient obsédés par lui, qui ne pouvaient pas s'empêcher de chercher ses vieux albums.
C'est incroyable parce que y a dans le documentaire, il y a les gens dont on parlait, donc effectivement, Floch, Serge Leclerc, des gens qui l'ont connu, qui étaient ses amis et tout, mais il y a aussi des gens qui, comme tu disais, viennent témoigner leur amour. Les moments où on voit apparaître Bruno Gassio, qui était quand même la principale tête pensante derrière les guignols de l'info pendant très longtemps à Canal, et surtout Benoît Poulvorde, la scène où Benoît Poulvorde fait une déclaration d'amour d'outre-tombe à Chaland, c'est incroyable. Et que son court-métrage de fin d'études qui a directement débouché, je me souviens du titre tellement il ne mémorera pas, de C4 pour Daniel, si mes souvenirs sont bons, qui est finalement le brouillon, pour le dire comme ça, ou qui a donné lieu directement à C'est arrivé près de chez vous, qui dit que ça n'aurait pas pu exister sans Chaland, c'est incroyable. Finalement, est-ce que le fait que... est-ce que c'est aussi pour ça qu'il est toujours apprécié, plébiscité, qu'il est passé à la postérité, que finalement, il était, même pour son époque, il était très subversif et finalement presque en avance sur son temps? Tu parles de... Étant donné qu'il y a Bruno Gassio, des gens comme ça, je me demande si c'était pas un peu l'esprit de Chaland, c'était pas un peu le trait d'union entre l'esprit Charlie de la première époque et l'esprit Canal qui allait déferler quelques années plus tard avec Les Nuls et Les Guignols.
Sans doute, mais il avait une chose en plus. Il avait l'élégance. Il avait un chic absolument ultime.
C'est le côté belge.
Et
alors qu'il n'était pas belge.
Il rêvait de l'être.
Il rêvait de l'être.
Une forme de Belgique. Hein, une sorte de
belgitude.
Oui, il avait cette élégance folle qui fait qu'il pose une bombe, mais il est déguisé en enfant de cœur.
Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est quelque chose, pour avoir beaucoup lu les gens, surtout quand tu lis Chaland, c'est quelque chose qui vraiment ressort. C'est cette espèce de subversion, de côté de bonbon, de gâteau rose qui, quand tu le goûtes, a goût de poivre. Je ne sais plus lequel c'est dans ton documentaire. Il me semble que c'est peut-être Franck Margerin ou Serge Leclerc ou un autre qui dit finalement la ligne claire, puisque cette école de dessin là, on l'appelle la ligne claire, c'est pour dire des choses pas claires.
Oui,
qu'est-ce que ça veut dire?
C'est Charles, moi, c'est Charles Berberian.
Tu sais que quand j'ai vu le documentaire,
pas très clair.
Et c'est raccord avec ce que Berberian fait ou a fait. Et après avoir vu le documentaire, je me suis retourné cette question dans tous les sens et en entreapercevant ce qu'il voulait dire, notamment par le prisme de l'œuvre de Chaland, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, c'est un peu vaste, il faudrait beaucoup de temps pour explorer.
Faudrait une émission de 4 heures, mais...
Je suis sans doute pas le mieux placé, là, faudrait inviter des dessinateurs de la ligne claire, comme Serge Clair, ou Berberian, qu'on parlerait admirablement, qui ne fait pas de la ligne claire tout à fait.
Non,
parle, mais,
je les inviterai.
Voilà,
j'espère qu'ils diront oui.
Et j'écouterai l'émission. Moi, ce que j'en perçois, c'est qu'en fait, la ligne claire, à mon sens, c'est vraiment une génération d'auteurs de bande dessinée de la fin qui commence à émerger dans le milieu de professionnel à la fin des années 70. Et ils arrivent à un moment absolument crucial où quelque chose est en train de glisser. Les maîtres d'antan sont Hergé,
Jacobs
avec Blake et Mortimer, Franquin, Outilieu, sont fatigués ou disparaissent, comme Tilleux qui meurt dans un accident de voiture, ou comme Jigé qui meurt brutalement en 80. Alors
dans un accident de voiture?
Non, il est mort, je sais plus de quoi, je sais pas, j'étais pas là. Tillieux, accident de voiture.
Comme Chaland plus tard.
Berger, voilà, ne fait plus d'album, on sent bien que c'est la fin. Jacobs perd sa femme, il arrête, il y a un album inachevé qui s'est fini après sa mort. Donc il y a une espèce d'âge d'or qui se termine. Et eux arrivent là, et c'est à la fois des fils spirituels, et en même temps on sent bien que quelque chose est passé. Et Chaland, Flock, qui est de la même génération et qui fait partie de ce mouvement-là, Ted Benoît, Jos Fart, sont des types qui se retournent sur le monde passé, ils se retournent sur leurs amours d'enfance, sur les paradis perdus des lectures d'enfance, et ils disent, ça ne nous suffit pas d'aimer ça et de dire qu'on aime ça, on peut plus faire de la bande dessinée comme eux, avec la même innocence, raconter des histoires de scouts, raconter des histoires d'enquêteurs, raconter des histoires de journalistes qui font le tour du monde.
Bien sûr.
Ça, hein, Tintin, tout
ça. Bien sûr.
C'est plus possible. Mais en même temps, on ne peut pas nier qu'on vient de là et que c'est notre terreau et qu'on aime ça. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
C'est contrarié. C'est une histoire d'amour contrarié.
C'est un amour contrarié. Donc, au lieu de tuer les pères, parce qu'ils n'en ont aucune envie, ils vont rentrer à l'intérieur de la matrice de ces œuvres et ils vont décortiquer pour faire ressortir le refoulé, la mauvaise conscience.
Bien sûr.
Tout ce qui est caché. Donc, qu'est-ce qui est caché derrière Tintin ? Bah, évidemment, c'est la Belgique de
colonialisme,
qui était une Belgique où il y avait le Congo belge, qui était une Belgique quand même majoritairement catholique, qui était une Belgique avec le racisme, etc., etc. Donc, effectivement, il y a du racisme, mais il est latent, un racisme bourgeois, un peu complexé, de bonne aloi.
Oui, bien intentionné presque.
C'est absolument terrible.
Bien sûr, bien sûr.
Il est intéressant de se placer dans cet état d'esprit parce que Chaland, tout d'un coup, dit bah oui, en fait, nous, on était des gamins. Comme on était catholique, entre guillemets, comme tout le monde, et qu'on nous donnait Tintin à lire qui paraissait dans un bon journal, le petit 20e, eh ben on lisait des œuvres racistes comme Tintin.
Et ils ne se posaient pas la question.
Les Africains disent tous Buana Buana et accueillent les gentils colons comme si c'était.
Pour aller à la chasse sauvages. À l'éléphant en plus, ensuite.
Et alors personne ne dit rien, fait comme si c'était normal. Eh ben moi, je vais le dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait ?
C'est finalement la poussière qu'on avait planquée sur le tapis. On soulève le tapis.
Il sort la poussière et au lieu, comme dans un geste de provocation, de la balancer comme ça rageusement, il en fait un écrin. Il met la poussière, il la sertit à l'intérieur d'un
instrument. Il la sublime.
Et il la présente sur une chevalière magnifique en disant « Voici le chef-d'œuvre que vous attendez tous. »
Oui, parce que visuellement, en plus, comme tu dis, c'est irréprochable.
Il faut absolument, je donne le titre pour les auditeurs, il faut lire « Le cimetière des éléphants », il faut lire « Le jeune Albert ».
Le jeune Albert, c'est la synthèse parfaite de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ça se passe dans l'après-guerre, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est ça, c'est au lieu d'avoir, peut-être pas bien le prononcer, Kupke et Flupke, des garnements qui font des bêtises, mais qui sont grosso modo sympas. Lui, c'est une peste absolue. Et en même temps, tu vois la situation totalement détruite après la Seconde Guerre mondiale.
C'est un petit garçon qui a l'air innocent et gentil, qui fait des petits jeux, mais en fait, il est méchant, il est veuf, il est lâche, il est raciste.
C'est ce que tu dis, c'est tout le refoulé de ce que...
Son meilleur copain, parce
c'est terrible.
Que le meilleur copain lui a dit un mot de travers, et après, il lui fait la leçon en disant, tu vois, si tu avais été poli avec moi, tu n'aurais pas perdu un œil. La vie n'est-elle pas pleine de surprises ? Incroyable, cette journée que nous avons vécue. Et l'autre, il a le bandage sur l'œil. J'extrapole un peu, mais c'est l'ambiance. Et il dit, ah oui, merci pour cette belle leçon. C'est formidable de t'avoir comme ami, Albert.
Et c'est vrai que tu vois, tu disais que tu avais découvert Chaland effectivement 20 ans après sa disparition, et moi d'autant plus, puisque j'avais, je connaissais un petit peu son œuvre, mais je me suis surtout, pour être tout à fait honnête, jeté dessus après avoir vu le documentaire que tu lui as consacré. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait de te recevoir dans l'émission. Et c'est vrai que ça reste... d'une modernité pas forcément, puisque c'est comme tu dis, c'est très ancré dans son époque, mais c'est pertinent, ça reste pertinent,
percutant.
Et tu vois ce dont on parlait, c'est-à-dire avec un dessin à la Tintin ou à l'ARG, d'exprimer justement tout le refoulé de toute la mauvaise conscience de l'Occident, notamment ce qui avait été fait avec le colonialisme. Aujourd'hui, quand on voit toutes les polémiques et parfois la censure qui s'ensuit autour de Tintin au Congo, tout ça, Chaland est pile dedans. Mais 30 ans avant tout le monde.
Oui, 30 ans avant tout le monde. Et avec la note juste, c'est-à-dire lui, il ne dit pas...
Avec la distance nécessaire.
La distance, il crée l'appareil critique. En fait. Il ne dit pas Tintin au Congo, il faut le foutre dans les flammes. Parce qu'il est hors de
bien sûr, bien sûr.
Mais il ne dit pas non plus, on va le donner à lire à nos enfants comme si de rien n'était. Il dit juste, moi, je vais faire le vrai Tintin au Congo. Je vais faire l'album qui dit la vérité.
C'est ça.
Et donc, il nous fait le cimetière des éléphants. où c'est un truc absolument fou.
C'est Freddy Lombard, ça.
C'est Freddy Lombard.
Ouais, Freddy Lombard à lire absolument aussi. Ouais.
C'est un bouquin où on a l'impression d'une aventure trépidante et en fait, on se dit, mais c'est pas possible, ce type qui dessine ça. Tous les mecs ont des chapeaux colonialistes, ils vont dans des clubs, ils parlent de Bamboula, ils les appellent Bamboula.
C'est la face cachée de, c'est la face cachée de ce qui était pas dit dans Hergé.
Chaland n'est pas un raciste atroce. Il dit juste, on vient d'un monde où il y avait un racisme atroce qui se déguisait en un racisme
de bon aloi ou en oui ou qui
bon
était
sens,
voilà.
Forme de...
C'est ça.
C'est comme ça. Voilà. C'est encore plus atroce.
C'est encore pire. C'est encore pire.
Donc il nous libère Chaland. Moi, oui. Ça nous libère. C'est voilà, il nous venge quelque chose.
Alors on arrive malheureusement, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Comme tu dis, ça aurait pu durer des heures et on aimerait bien. Une question que je pose traditionnellement à tous les invités que je reçois, de nous partager en fait un coup de cœur qu'ils ont, c'est-à-dire que ça peut être, alors dans ton cas ça peut être une BD mais pas seulement, ou un film, une chanson, un album, quelque chose vers lequel... nos auditeurs pourront se jeter, ainsi que moi-même. Donc, je ne sais pas si tu as une recommandation chaude à ton cœur. C'est bientôt Noël. Que mettra-t-on sous le sapin ?
Et en plus, c'est encore mieux que quelque chose à mettre sous le sapin parce que c'est gratuit.
Ah.
C'est un film qui a été réalisé par Claude Ventura en 1991, je crois, qui s'appelle Hôtel de Suède, chambre 12. Et j'ai découvert ce film qui était réputé invisible depuis des années. Et Claude Ventura, qui est un très grand réalisateur de documentaires, qui a animé notamment l'émission créée avec Michel Bouju, l'émission Cinéma-Cinéma, sur ex-France 2, donc Antenne 2, de l'époque, qui est la plus grande émission de cinéma française, a tourné ce film qui dure une bonne heure, en 91. C'est un film en noir et blanc. Et c'est un film où il plante sa caméra dans la chambre 12 de l'hôtel de Suez, qui était quai Saint-Michel, chambre dans laquelle a été tourné À bout de souffle.
D'accord.
Avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo en 59, donc de Godard. Et l'hôtel va être démoli dans 7 jours. Et donc, Claude Ventura décide d'en faire un film avant que l'hôtel soit démoli, qui est un film sur la mémoire où il se replonge dans le pourquoi de sa fascination pour cette œuvre et il essaye de rassembler comme ça les voix. C'est un film d'une force de vie, de fascination, c'est une déclaration d'amour au cinéma, c'est un film d'une douceur magnifique, d'une poésie, j'en parle même pas, et surtout, c'est vraiment un grand film de cinéma, c'est très très beau à voir, profitez-en, il est sur la plateforme Henri du CNC,
oui.
Claude Ventura a retrouvé une bêta-cam qu'il a filée au CNC, il est numérisé, vous cliquez plateforme Henri, Hôtel de Suède, chambre 12, et vous avez une heure de plaisir pur.
Fantastique. En plus, en t'entendant en parler, on perçoit tout à fait le rapprochement et peut-être même la généalogie avec ce que tu disais avant sur cette façon de parfois puiser dans ses souvenirs et parfois même la difficulté de saisir ou percevoir le réel. C'était passionnant, tout ça était passionnant, on aurait pu en parler des heures, on aurait bien aimé, mais on va devoir laisser l'antenne à d'autres personnes. Avril Tambouret, merci beaucoup d'être venu pour parler de toutes ces choses-là passionnantes. Pour qu'on termine là-dessus quand même, si les gens veulent voir tes différents documentaires dont on a parlé...
Alors ils sont tous disponibles, quasiment tous à l'exception d'un, en VOD, soit sur les sites des éditeurs et des producteurs. Et il y a eu des éditions DVD, notamment La Journée avec François Bouc, L'Histoire de la page 52 avec Mézières et Entre-temps avec Vicomte aux éditions Canary Film, disponibles sur leur site internet, Canary avec un K. Et il y a eu aussi une édition DVD de Valérian, Histoire d'une création, chez Delastre Film.
Voilà. Fantastique. On remettra tous les liens et tous les titres qui vont bien sur la page de l'émission pour que les gens puissent aller les voir. Merci beaucoup, Avril. Bonne soirée à tous. J'espère que cette émission vous a plu. C'était la dernière émission de l'année 2021. Et on passe vite. Je vous donne rendez-vous le 2 janvier pour ma prochaine émission. À bientôt.